France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Léa Capuano, Sacha Mattei, Anouk Mio, Quentin Péchard et Loïc Antoine, réalisé par Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, le journaliste Quentin Muller qui revient du Yémen nous raconte la guerre qui perdure malgré le cessez-le-feu, les déplacés et les failles d'un État fragile. Et puis, la table ronde. Qui pour faire la paix alors que le prix Nobel vient d'être remis à Maria Corina Machado, la vénézuélienne opposante au pouvoir de Maduro? Nous reviendrons sur cette nomination et nous demanderons comment construire une paix durable quand tant d'acteurs ont davantage intérêt à la guerre. Quel rôle pour les médiateurs et pour les activistes de terrain? Nous en discuterons avec Charles Tenenbaum, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, coordinateur de l'Observatoire en ligne des organisations internationales, et Jean-Marie Collin, directeur de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN, organisation lauréate du prix Nobel de la paix en 2017. Une discussion co-animée avec Marc Sémo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Quentin Muller.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant. C'est dans Le Point et La Croix qu'on peut lire vos derniers reportages sur le Yémen, un pays où la guerre n'a jamais vraiment cessé depuis le coup d'État de 2014. Et c'est dans la ville de Marib, la capitale de facto du gouvernement reconnu par la communauté internationale, et dans la région de l'Hadramaout, à l'ouest, que vous vous êtes rendu. Je précise que la guerre au Yémen est un sujet que vous couvrez depuis de nombreuses années et j'en profite pour vous remercier de venir nous en parler régulièrement. Il faut commencer par expliquer, Quentin Muller, ce que c'est que cette guerre qui perdure aujourd'hui au Yémen, malgré une relative stabilité de la ligne de front. Vous allez nous en parler, mais comment la guerre se manifeste aujourd'hui au Yémen ?
Alors, elle se manifeste principalement par une absence d'État. Et c'est ça que moi j'aimerais souligner, puisque je me suis rendu dans les zones gouvernementales, donc vous l'avez dit, à Marib et dans la Hadramaout, et les gens souffrent principalement aujourd'hui. Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, les lignes de front sont assez figées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grandes offensives comme ça a pu être le cas jusqu'en 2021. Donc, d'un point de vue de déplacement de population, c'est relativement stable, même si, faut quand même le noter, les bombardements israéliens ont créé encore de nouveaux déplacements, mais pas massifs, comme on l'a pu voir les dernières années. Mais c'est plus l'absence d'État, donc c'est-à-dire que il y a une crise économique qui est énorme du fait de la guerre, donc il y a une inflation qui est terrible. Donc, par exemple, avant la guerre, c'était à peu près 200 rials équivalaient à 1 dollar. Aujourd'hui, on est à 2600. On est monté jusqu'à 2600 rials pour 1 dollar. Donc, vous imaginez l'inflation pour les gens. Les gens sont passés d'un salaire de 500 dollars à aujourd'hui 30 dollars. Donc, je parle là des fonctionnaires. Par exemple, les professeurs, aujourd'hui, d'école, ne sont plus payés tous les mois. Et quand ils sont payés, leur salaire équivaut à entre 30 et 50 dollars.
Et d'ailleurs, ces professeurs, ils se mobilisent en ce moment dans la région de l'Hadramaout. Oui. Vous avez assisté à une manifestation. D'ailleurs, le slogan, c'était « Teacher first ». Il y avait aussi des élèves qui venaient protester contre le fait que les écoles, certaines écoles sont fermées depuis un an, les salaires ne sont pas versés.
Oui, moi je suivais à ce moment-là dans l'Hadramaout, donc c'est une région très à l'est, assez loin des lignes de front finalement, donc cette région n'a pas connu la guerre, mais il y a des zones entières dans l'Hadramaout où les écoles sont fermées depuis un an. Donc à l'époque, enfin moi à ce moment-là j'étais avec un ancien djihadiste, un vétéran d'Al-Qaïda qui a quitté quitter le mouvement, qui se rêve en Al-Joulani, il s'appelle Abou Amer Al-Nahdi, et il a créé un nouveau parti politique qui s'appelle Tayar, et lui souhaite remettre un État-providence dans les programmes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis politiques au Yémen, dans la zone gouvernementale, parlent surtout d'indépendance, d'identité culturelle, mais ils ne parlent, il n'y a pas de programme politique. Et lui, il remet ce programme politique sur le devant de la scène, et surtout, il parle de service public. Or, c'est quelque chose qui est absent généralement des programmes politiques. Et il soutenait les professeurs qui n'étaient plus rémunérés depuis 3 mois dans cette région, et certains, je l'ai dit, depuis plus d'une année, parce que les écoles sont fermées. Donc, vous imaginez que, pour avoir discuté avec des professeurs, il y a entre 60 et 70% des élèves qui atteignent le lycée ne savent pas lire ni écrire. Donc c'est quand même terrible.
Alors, c'est préoccupant et ça préoccupe. Et, oui. Et ça crée aussi, vous parliez des services publics et dans cette région qui manifestement en est particulièrement privée. Comment est-ce que ça crée aussi une tension, une défiance vis-à-vis de l'État yéménite qui perdure et qui est encore reconnu par la communauté internationale à l'est du pays? Est-ce que on voit dans cette région-là des mouvements de défiance envers les autorités, du fait que rien n'est assuré sur le minimum?
C'est plus qu'une défiance, c'est une haine envers le gouvernement et surtout, enfin, moi je me suis rendu dans des zones où le gouvernement est totalement absent, c'est-à-dire qu'on est sur une autonomie. C'est-à-dire les chefs de tribu font absolument tout ce que l'État ne fait plus depuis des années et depuis presque 10 ans. Par exemple, j'ai assisté à des chefs de tribu qui étaient là en tant que juges, en tant que cadi, donc ils réglaient les problèmes de justice, des problèmes fonciers, des problèmes liés à des meurtres aussi. J'ai assisté par exemple, ce qui est assez surréaliste pour nous en France, mais à des négociations de tribus, c'est-à-dire qu'il y avait eu un meurtre, et donc il y avait des tribus qui venaient de tout le pays, qui allaient voir le chef de tribu de la famille de la victime pour demander le pardon et pour demander à ce que cette personne soit graciée. La famille de la victime ne voulait pas, et donc cette personne qui était accusée de meurtre a été exécutée depuis. Mais on se rend compte que l'État étant absent, eh bien, il y a le tissu tribal qui reprend le dessus de par c'est une longue tradition au Yémen, dans ces régions hors des métropoles, où en fait c'est la tribu qui reprend le dessus sur l'État, puisque l'État n'existe plus.
Alors, à Marib, là on est un petit peu plus à l'ouest et un peu plus près de la ligne de front, toujours dans les zones contrôlées par les forces loyales et les forces gouvernementales. Ce que vous avez couvert et ce que vous racontez dans vos derniers reportages, c'est l'afflux phénoménal de réfugiés, qui est un phénomène qui date de 2014, mais ce qui est frappant, c'est qu'il continue, il ne s'est pas arrêté. On voit encore aujourd'hui des nouvelles familles fuir la zone contrôlée par les Houthis pour arriver à Marib. Dans quelles conditions sont-ils accueillis?
Avec pas grand-chose finalement, parce que je le rappelle, l'USAID a mis fin à son aide financière pour énormément d'ONG. Donc l'aide humanitaire a quasi disparu au Yémen, enfin quasi disparu, elle a fortement décru, et surtout à Marib. Parce que la plupart des ONG internationales, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, ont leur siège à Sanaa, donc côté Houthi. Et Marib, qui a absorbé plus de 60...
Elles ont encore leur siège à Sanaa.
Oui, encore leur siège à Sanaa. Et à Marib, là où donc c'est quand même le gouvernorat, la région qui a accueilli 62% des réfugiés de tout le pays. Et parfois, on monte à 80% dans la ville. Donc, c'est quelque chose de phénoménal. La région est passée de 300 000 à quasi 3 millions d'habitants. Donc, en fait, la région est entièrement composé de réfugiés, et l'aide humanitaire est quasi inexistante. Moi, je me suis rendu dans des camps où la situation est catastrophique, c'est-à-dire que les écoles, parce qu'il y a des écoles dans ces camps-là, les classes, c'est 150 élèves. Comment voulez-vous apprendre quelque chose avec 150 élèves par classe? L'accès à l'électricité Heureusement, il est là parce que c'est une région riche en gaz et donc il y a de la part du gouverneur Sultan Al Arada une volonté de développer le service public et donc l'accès à l'eau et l'électricité est à peu près assuré pour ces réfugiés. Mais ces réfugiés, vous l'avez dit, ne fuient plus la guerre puisqu'il n'y a plus vraiment de combat, en tout cas loin des lignes de front. Mais ils fuient le fait que les Houthis veulent embrigader leurs enfants, leurs garçons. Et surtout les amener dans leurs armées, dans l'armée, et aussi leur inculquer dans les summer camps, dans les camps d'été, des idées radicales.
Et vous rencontrez à ce sujet Hassem, un jeune adolescent de 13 ans. Il a été embrigadé de force lorsqu'il avait 10 ans par les houthistes, et puis il a été libéré grâce à l'action de sa famille qui a mobilisé un réseau de passeurs. De quoi témoigne ce jeune garçon ?
Mais vous vous rendez dans ces camps, vous menez les entretiens avec toutes ces familles, c'est récurrent, c'est quasi tout le temps la même motivation. C'est-à-dire que nous ne voulions pas que notre garçon rejoigne l'armée Houthi et serre de chair à canon ou ressorte de ces camps d'entraînement avec des idées radicales et proches en fait de l'idéologie Houthi. Donc ça raconte en fait ce qu'est l'administration Houthi et ce qu'elle promeut dans les zones qu'elle administre en fait.
Et lui, que dit-il de ce qu'il a vécu dans ce camp d'entraînement ?
Mais vous imaginez que c'est un garçon donc de 10 ans qui a été kidnappé, donc envoyé de force dans ces camps-là. On lui a appris que Abdelmalik Al-Houthi, qui est le chef des Houthis, c'était un dieu, qu'il fallait combattre les forces gouvernementales parce que c'était des gens qui étaient alliés à Israël et aux États-Unis, ce qui est faux. Et on lui a appris surtout à tirer au sniper et à la Kalachnikov. Vous voyez, quand même, à 10 ans, le traumatisme. Et ça, ce sont des histoires qui ramènent à l'histoire aussi de sous l'imama. Donc, l'imama, c'était un régime obscurantiste zaïdiste qui était là du 9e siècle jusqu'en 1962. Et les tribus de Marib ont traditionnellement lutté contre l'imama. Et à l'époque, l'imam, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait, il kidnappait, en fait, de force aussi, des enfants dans chaque tribu. Donc, il prenait des otages pour s'assurer de la loyauté des tribus. Donc, en fait, on est dans une continuité de l'histoire aujourd'hui.
La fin de l'imama, donc c'était en 1962, et c'était précisément le 26 septembre 1962. C'était une révolution à ce moment-là pour les tribus de Marib d'avoir mis fin à ce régime. C'est un anniversaire qui était commémoré au moment où vous y étiez, Quentin Muller.
Oui, c'est un anniversaire qui compte énormément dans cette région parce que, on l'a dit, ces tribus sont sunnites et elles ont toujours voulu rester indépendantes du pouvoir imamite qui était lui zaïdite. Mais ces tribus, elles se sont battues pendant la révolution. Et à tel point que aujourd'hui, cette guerre entre les Houthis et les tribus de Marib sonne comme une vengeance. C'est-à-dire que les Houthis veulent faire payer cela aux tribus Maribi. Et par exemple, dans Jabal Mourad, où j'étais allé en 2021, pendant la guerre aussi, aujourd'hui c'est une région qui a été envahie par les Houthis, et il se trouve que un des assassins de l'imam Yahya au début du XXe siècle venait de cette tribu de Mourad. Et donc c'est pour ça que les Houthis ont accéléré l'invasion et accentué leurs efforts de guerre contre cette tribu Maribi, parce qu'il y a cette histoire qui est là.
Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, Marib est passée d'une ville de 400 000 habitants environ à presque 3 millions d'habitants. On vous raconte aussi la construction de routes, de bâtiments, d'écoles, d'hôpitaux, aussi d'une université qui est passée de 1200 étudiants à 19 000. Avec quels moyens, puisque vous racontiez à quel point l'État yéménite est exsangue, avec quels moyens les autorités locales ont dû mobiliser pour faire face à cette transformation démographique ?
Mais c'est là où c'est tout le paradoxe, parce que la région Hadrami à côté, elle n'a quasi aucun moyen et pourtant elle est riche en pétrole, et la région de Marib, elle est riche en gaz. Et en fait, c'est parce que, je pense, c'est lié tout simplement à l'action du gouverneur. Le gouverneur a insisté pour que la région tire davantage de revenus du gaz, donc le gaz alimentant les centrales électriques qui ont été agrandies sous l'impulsion du gouverneur, eh bien, rien que ça, on a une alimentation en électricité qui est constante. Il n'y a pas de coupure à Marib d'électricité. Or, c'est dans tout le pays, il y a des coupures d'électricité, sauf à Marib, grâce au gaz. Après, grâce aux revenus gaziers, on a des professeurs et des fonctionnaires qui sont payés tous les mois. Ce qui est aussi exceptionnel au Yémen ou dans toutes les autres régions du pays, y compris en zone outil, les fonctionnaires ne sont pas payés tous les mois. Donc on tient là du miracle, mais en même temps il y avait une telle nécessité, parce que quand vous avez presque plus de 2 millions de déplacés qui arrivent dans la région, si vous ne développez un minimum pas des infrastructures médicales, de routes, d'électricité, d'approvisionnement en eau, vous allez vers la catastrophe. Donc il y a eu une volonté du gouvernorat de faire comme il pouvait, mais surtout il y a eu une initiative du gouverneur qui est à saluer, et on ne le constate pas ailleurs, ça.
Il faut aussi rappeler le contexte humanitaire de l'arrêt. Vous disiez il y a très peu d'aide humanitaire. Il y avait encore quelques programmes de l'USAID, l'aide humanitaire américaine dont Donald Trump a annoncé l'arrêt il y a quelques mois. La question, c'est quels impacts évidemment cela a, quelles inquiétudes cela crée. Et puis il faut aussi dire que s'il y avait aussi un autre parrain qui aidait encore le gouvernement yéménite, c'est l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite supporte encore militairement, plus beaucoup, mais au moins financièrement, l'État yéménite?
Oui, alors l'arrêt de l'USAID, c'est 18 programmes humanitaires sur le long cours qui ont pris fin. La personne chargée, Saïd Al-Muthana, la personne chargée donc des travaux humanitaires dans la région de Marib, m'a dit que c'était des vies qui allaient être perdues parce que c'était des projets humanitaires cruciaux. Donc voilà, c'est ça l'impact aussi de l'arrêt de l'USAID. Concernant les Saoudiens, en fait, il y a depuis 2018, depuis l'affaire Khashoggi, on constate que petit à petit, année après année, l'aide financière saoudienne au gouvernement central décroît. C'est-à-dire que chaque année, il y a moins de budget qui est mis dans les caisses de l'État, parce que c'est un État qui est failli. C'est-à-dire que la plupart des banques étaient dans les régions du Nord, la plupart des taxes étaient dans la région du Nord, parce que ce sont les régions les plus peuplées. Aujourd'hui, elles sont occupées par les Houthis, donc c'est un État qui est failli financièrement. L'État ne dégage plus assez de recettes pour payer ses fonctionnaires. Donc, il compte sur l'aide financière de l'Arabie Saoudite, qui remet au pot de moins en moins chaque année. Et donc aujourd'hui, il y a des tels trous dans la raquette que les fonctionnaires ne sont plus payés tous les mois. Ils n'ont jamais été payés tous les mois, mais parfois, ils ne sont plus payés pendant une année. Vous vous rendez compte? Pour avoir rencontré des fonctionnaires et des gens qui sont diplômés, des docteurs, des professeurs, sont des gens qui sont obligés d'avoir 2-3 petits boulots à côté pour continuer de pratiquer, ou carrément ils ne pratiquent plus parce qu'ils considèrent qu'ils ne veulent pas travailler, et à juste titre, gratuitement.
Sur la ligne de front, on vous explique que cette guerre, on n'en voulait pas, mais qu'elle s'est imposée à eux, aux combattants qui sont aujourd'hui mobilisés, et qu'en même temps, l'Arabie Saoudite se désengage. Elle fournit encore des munitions, mais plus beaucoup d'autres appuis. Là aussi, c'est tout le paradoxe, cette contradiction d'une guerre, et on va parler de sortie de guerre tout de suite après, mais d'une guerre dont ils ne voulaient pas, mais aujourd'hui dont ils ne peuvent pas sortir tout seuls.
Oui, c'est dramatique, parce que bon, quand je me rends sur ces lignes de front, je le fais depuis 2021 et c'est un passage obligatoire. Je vais voir ces soldats qui sont soit trop jeunes, soit trop vieux, dont leurs familles sont souvent, parce que ce sont souvent des gens qui viennent du nord, des régions occupées par les Houthis. Donc quand on se rend sur ces lignes de front, on voit bien que ces gens n'ont absolument rien demandé, et leurs familles, ils sont coupés de leurs familles qui sont restées côté Houthis, qui n'ont pas vu depuis bientôt 10 ans. C'est dramatique.
Merci beaucoup, Quentin Muller. Vos reportages au Yémen sont à retrouver sur le site de La Croix et du journal Le Point. On fera des liens sur la page de Culture Monde. Merci d'être venu dans Le Retour de Terrain.
عسى ما شر وش اللي جايبه مكسور محروق عسى ما شر توك تصحى من غيبوبتك تفوق كنت لاهبهم عني وعنك خيبت ظن سات خيب ظنك
بهم
خيبت ظن سات خيب ظنك تعشمت وتوقعت تكون الصح غلطة تشوه صفحة البيضة سواد نقطة
عسى ما شر وش اللي جايبك مكسور محروق
وعسى ما شر
دوك تصحى من غيبوبتك
J'espère qu'il n'est rien arrivé de mal, demande le chanteur yéménite Fouad Abdoulaouid dans ce titre Assa Machar, sorti en 2022, suite de notre émission Culture Monde, direction à présent la Norvège, où le prix Nobel vient d'être annoncé. Il est décerné à Maria Corina Machado.